Vivre FM, ça déménage.
Podcast.
On va parler voyage aujourd'hui. On va s'envoler vers de différentes destinations. On va commencer par Gaëtan. Tu nous emmènes où ?
Alors, en Chine et au Japon. Et c'était en 2003.
Ouais.
J'étais en Chine. Je venais de Kashgar à l'ouest de la Chine. Et je suis arrivée à Shanghai où j'ai travaillé dans un cabinet d'architecte pendant un mois et demi. J'étais logée dans un hôtel super chic, mais dans une pension, en fait, dans un dortoir.
Ouais.
Dans un hôtel super chic.
Dans un hôtel super chic ?
Oui, c'est ça. Oui, ils font des choses en Chine. C'était un vieil hôtel et qui était transformé en... Il y avait différents niveaux dans les paliers. Il y avait un étage dortoir, en fait, mais qui était un dortoir chic où il y avait des grooms qui venaient nous ouvrir. Mais c'était pas cher du tout. Et après, j'ai quitté Shanghai par la mer en arrivant à Osaka, où j'ai été hébergée dans un temple. Dans un temple à Osaka, oui. C'était un grand temple avec du papier entre les cloisons et des tatamis un peu partout, tout en bois, très beau. Ensuite, je suis allée à Kobe, où j'ai donné des cours de français et des cours d'anglais particuliers, où j'avais pas mal d'élèves. Et j'ai fait du karaté aussi à Kobe. C'était le chef de la police du Japon, c'est ce qu'on m'avait dit, qui était responsable de ce karaté. Il y avait plusieurs profs. Il y avait une prof qui travaillait dans un magasin de nouilles à Kobe et qui donnait aussi des cours de karaté.
Ça doit être sympa sur un CV de marquer « Je fais karaté nouilles ».
Oui.
C'est pas mal.
Oui, tout à fait. Oui. Et... Les dojos ont cette spécificité, c'est que toutes les générations sont représentées sur le dojo. Mmh. Donc les grands peuvent enseigner aux plus petits, en fait. Et donc il y avait de 77 ans à 3 ans sur le dojo. J'en garde un bon souvenir. Et après, je suis retournée au Japon, où ils m'avaient demandé, comme professeur de français, mais cette fois-ci avec une classe, pas des cours particuliers, mais toute une classe, où je suis restée un mois et demi à Kobe, à l'Institut franco-japonais de Kobe. Et là, j'ai pu faire d'autres visites au Japon. Je suis allée dans les îles d'Okinawa, en plein Pacifique, où j'étais là hébergée par un architecte et ses élèves qui venaient faire des dessins des temples d'Okinawa. Et je les avais rencontrés dans l'avion d'Osaka à Okinawa. C'était une base militaire dans le Pacifique américaine, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, je suis revenue à Osaka et voilà, mon séjour s'est terminé... Là, je suis revenue après en France.
Ça a duré combien de temps ?
À chaque fois, un mois et demi, en fait.
D'accord.
Un mois et demi la première fois avec les cours particuliers et un mois et demi avec les cours... Et je suis allée à Hiroshima aussi, où j'ai visité le musée d'Hiroshima.
Mmh.
Et donc, c'est assez horrible parce qu'on voit des effets personnels qu'on a retrouvés et qui sont tous grillés par l'explosion atomique le 6 août 1945. Et on voit des bouts de toit de temple qui sont en espèce d'argile... Et qui sont tous ébouillantés, donc on voit des petites bulles, on peut mettre la main dessus, c'est assez effroyable ce qui s'est passé. Ils sont toujours meurtris, les Japonais, de cette grande dévastation. Ils ne comprennent pas pourquoi les Américains ont mis une bombe sur Hiroshima. Il y avait des thèses comme quoi c'était des tests pour voir comment les populations civiles allaient réagir et pour tester la bombe atomique en elle-même, en fait. Et on a dit que c'était pour mettre une fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais les thèses au Japon sont plus... compliqué que ça, en fait. C'était intéressant.
Très bien. Alors, on va essayer de rêver un petit peu plus, parce que évidemment, on n'est pas trop dans
Avec Hiroshima, on rêve pas, non.
Non, on rêve pas. Mais c'est un souvenir de voyage.
Oui.
Voilà, ça t'a marqué, donc ça avait sa place dans l'émission. Joachim, alors où tu nous emmènes ?
Alors cette fois-ci, je vais faire un petit peu mon chauvin. Donc comme je suis d'origine mauricienne, je vais parler de l'île Maurice.
Ouais.
Donc qui me reste l'un des plus beaux voyages que j'ai fait jusqu'à présent.
Mm-hmm.
Je peux parler en particulier, donc c'est du savoir-faire. J'avais vu une fois, donc dans un champ, la culture principale de l'île Maurice, c'est le thé ou la canne à sucre.
Mm-hmm.
J'avais vu une fois dans un champ de canne à sucre, on m'a invité à couper la canne. Et ils m'ont transmis leur savoir-faire et tout ça. J'ai trouvé ça assez magnifique. J'ai trouvé ça magnifique globalement. Sinon, ce que je peux dire sur l'île Maurice. C'est un pays qui est très beau, qui a surtout une multi-ethnie où il y a plusieurs ethnies qui se rejoignent, qui s'entendent bien.
On nous dit souvent que l'île Maurice, c'est très beau, mais en quoi c'est beau ? Parce que moi, j'y suis jamais allé et je suis sûr que chez eux, beaucoup de gens n'y sont pas encore allés. Quelles images tu pourrais nous donner pour nous dire « Allez-y, c'est vraiment très beau, c'est magnifique ».
Là, j'ai donné ma première image en ce qui concerne donc, les champs de canne à sucre en particulier. Donc,
mais je suis sûr que tu en as d'autres en tête.
Oui, j'en ai d'autres, mais évidemment. Comme les plages qui sont assez luxuriantes, la mer qui est calme, où on peut rester pendant des heures allongé, tout ça, profiter du soleil. On peut visiter les villes, on peut visiter aussi les villageois qui ont un accent très accueillant, l'accent mauricien qui est toujours accueillant, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation.
Fatia, tu nous emmènes où ?
Au Maroc. C'était à Agadir, hein, donc on a visité El Saouira et ses environs, le désert. On a fait des belles balades, en dromadaire. Et comme on était parti en fait en voyage organisé, donc c'était hôtel plus avion. Mmh. Donc en fait, le soir, il y avait des animations à l'hôtel avec des serpents et de la danse orientale. Il y avait des danseuses qui dansaient très bien.
T'as pas ici ?
Non. Quand je vais à des soirées, je danse un peu la danse orientale.
D'accord. Et nous, on n'a pas eu le droit de voir ça.
Non. Peut-être à la fin du stage, je sais pas.
Ah, on prend rendez-vous alors.
Ouais.
Alors, vous ne bougez pas, on continue dans un instant. Tu as encore quelques anecdotes ?
Oui, je suis aussi allée la dernière fois. Je suis partie, c'était en Corse.
Eh bien, tu gardes ça bien au chaud. On revient dans un instant sur Vivre FM.
17h, 17h30, ça déménage avec Fred Pierre.
On voyage cet après-midi sur Vivre FM et on était juste avant la pause avec Fatia. Et après Agadir, tu nous emmènes en Corse.
En Corse, oui, plus précisément à côté de Porto Vecchio. Mmh. Donc j'ai de la chance parce qu'en fait, mon ami, ses parents, ils ont une maison là-bas. C'était bien, il y a la mer, le soleil, le port. C'était vraiment des vacances tranquilles, au soleil, pas de soucis de faire à manger. On déjeunait à l'extérieur et du repos, la mer, tranquille. Voilà.
Et des beaux paysages.
Et des beaux paysages.
Oui, d'accord, c'est magnifique quand même.
Oui, c'est magnifique.
Merci. Sim, tu nous emmènes où ?
Je vous amène dans le sud de la France, pas très loin de Aix-en-Provence, mais j'ai oublié le nom, je pense que ça s'appelle Saint-Michel. Mm-hmm. J'ai été il y a de cela quelques années et je suis partie dans une famille d'accueil, voilà, des personnes âgées qui mm-hmm. avaient entre 50 et 60 ans, dont je ne les connaissais même pas, c'était la toute première fois. Ils m'ont accueillie à la gare. Et on a fait quand même un voyage de presque 2 heures de temps pour arriver à Saint-Michel. Et le quotidien, c'était petit déjeuner le matin, et petite sortie, visiter pas mal de sites, visiter des églises, visiter des musées. Surtout ce qui m'a marqué là-bas, c'était la façon de construction des maisons, qui n'est pas les mêmes comme ici. Et
qu'est-ce qu'elles ont de différent ?
La différence, c'était qu'ils avaient presque une couleur unique, couleur pastèque. Mmh. À chaque fois, ils mettaient orner la devanture de sa maison avec une espèce de niche d'abeilles. Et quand j'ai été curieuse de savoir pourquoi chaque maison, ils ont des niches d'abeilles, avec parfois c'est des abeilles qu'on a dessinées, on expliquait comme quoi c'est un village où on recueille beaucoup plus le miel.
D'accord. Donc il y avait des ruches
voilà,
devant des ruches. Chaque maison. D'accord.
Voilà. Et la peinture qu'ils adoptaient beaucoup plus là-bas, c'était couleur pastèque.
Est-ce que ça correspondait aussi un peu au miel ou à quelque chose des abeilles ou...
Ça, je ne peux pas le dire parce que la couleur des miels, on va dire que c'est bronzé, c'est un peu plus sombre.
Ça dépend, il y a plusieurs couleurs. Ça dépend d'où vient le miel aussi.
Franchement, je ne sais pas, j'ai été juste curieuse de savoir, voilà. Et aussi, tous les soirs, il y avait un conteur, c'est-à-dire qui racontait des histoires et tout, un Africain qui était là, qui racontait ses histoires, c'était rigolo, au pied d'un arbre, nous étions tous assis par terre et... C'est vrai que l'entrée, c'était gratuit, mais après, on donnait ce qu'on voulait. Mais j'ai dû raccourcir mon séjour parce que je me suis rendu compte que c'était un village qui était encore un peu très éloigné de Paris, des hautes villes et tout. Pas de pharmacie, pas de ci, pas de ça. Il faut faire 5 km à pied pour trouver une boulangerie. Et quand on allait s'acheter du pain, on rentrait à la maison, on dit « Ah, on a oublié de s'acheter un camembert. » Ouh, on ne pouvait plus rentrer à la maison encore. C'était difficile quoi. Et c'est comme ça que j'ai pris mon train de retour. C'était prévu de faire 1 mois, mais j'ai finalement fait 2 semaines parce que les conditions de vie, c'était pas comme ici. Il y avait un facteur pour toute la ville et le même facteur, il gérait 3 à 4 postes lui seul, 2 heures partout.
C'est d'autres conditions de vie que la vie citadine.
Voilà, peut-être si je peux me permettre, la question que j'aimerais savoir, c'est je ne pense pas qu'il faut toujours voyager pour y vivre. On peut voyager sur son PC, on peut voyager via les médias, on peut voyager via les presses, on peut voyager via les informations des proches, des amis et autres. On peut voyager sans décoller.
Est-ce que c'est pas mieux d'aller sur place quand même ?
Aller sur place, c'est vieux, ça c'est du palpable, ça c'est du concret, ça c'est du vrai. Après aussi, peut-être qu'il y a des moyens de finance, pourquoi pas. Moi, je connais des gens qui sont mieux instruits que la personne même qui a voyagé, juste parce que cette personne passe son temps sur Internet, les médias, les presses. C'est comme ça qu'il enrichit ses capacités intellectuelles, régionales, quoi, ou géographiquement, quoi.
D'accord, c'est un point de vue, hein. Ça se respecte. Nicolas, tu nous emmènes où ?
Aujourd'hui, je vous emmène à deux destinations. Première destination, c'est Manhattan, où j'ai logé à l'auberge de jeunesse internationale. On logeait dans des chambres de 8 à 12 lits.
Ouais.
Mais c'était pas cher, donc c'était très bien.
La promiscuité, c'est pas trop difficile ?
Non. Et puis, on pouvait même laisser ses affaires à côté de son lit. Il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de problème entre les habitants de l'auberge de jeunesse internationale. Et donc, j'ai découvert New York à pied. J'ai essayé d'éviter de prendre le métro. Mmh. Je l'ai fait à pied avec un plan du routard. Et j'ai remarqué le caractère carré de l'architecture des rues
et
les hauts buildings. Mais il y a un truc marrant, c'est Greenwich Village. C'est un quartier de Manhattan avec des petites maisonnettes.
Ah oui.
Oui, ça c'est assez rafraîchissant au milieu de tous ces buildings.
Et les rues sont quand même carrées ou c'est un peu plus comme chez nous ?
Je crois que c'est un peu plus comme chez nous. Enfin, il faudrait que je revérifie sur une carte. Mmh. Et sinon, pour ce qui est de manger, alors là, il y avait tout. Il y avait mexicain, japonais, ukrainien, chinois. C'était très cosmopolite et on pouvait manger très bien, plein de cuisines exotiques.
Et pas français, alors ?
Oui, effectivement, j'ai fait l'impasse sur les restos français.
Étrangement.
Voilà.
Arnaud, tu nous emmènes où ?
Moi, je vous emmène en Italie.
Alors,
mon plus beau voyage, c'est quand j'étais la première fois à Milan, j'ai découvert cette belle ville parce qu'avec toutes ces belles rues et tous ces monuments anciens, et surtout ce qui m'a beaucoup plu, c'était les tramways, les vieux tramways pour se déplacer dans la ville. Et j'ai fait surtout beaucoup de musées, de choses comme ça à pied.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai fait le musée Léonard de Vinci quand il neigeait.
Ouais.
C'était impressionnant, donc voilà. Puis j'ai logé en fait dans une famille italienne très sympa, dans la famille de mon beau-frère, que je connaissais pas au départ.
Mmh.
J'y suis resté un bon mois complet là-bas, puis j'ai fait des petits boulots aussi pour me faire un peu d'argent là-bas.
Ça fait quoi comme boulot ?
Bah moi j'ai travaillé dans un café en fait, un bar, un truc que mon beau-frère connaissait. Ça bouge beaucoup à partir de 6h30, 7h le soir, puis la nuit ça bouge pas mal aussi à Milan. Et là je vais y retourner bientôt avec mon beau-frère pour mon anniversaire en fait.
D'accord. À Milan toujours ou...
Non. Où il y a Ferrari, en fait. À Modène.
D'accord.
Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai fait le circuit de Monza un week-end avec mon beau-frère. Voilà ce qui m'a marqué le plus dans mon voyage.
Bah, c'est parfait. Merci Arnaud. Merci à tous.
Vivre FM, ça déménage. Podcast.